Bienvenue, mesdames, messieurs, dans les meilleurs moments du vestiaire au 94.5 Unique FM. On vous rappelle que dans le vestiaire, c'est disponible en balado-diffusion et c'est à notre antenne d'ailleurs du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. À l'émission aujourd'hui, eh bien, on a quatre blocs comme à l'habitude. À la fin, on va avoir notre expert, notre analyste en soccer, Guy Gérard. On va surtout parler de la Coupe du Monde de 2022. L'équipe Canada, eux, que leur prochain match, c'est mercredi prochain pour affronter le pays de la Belgique, leur premier match dans cette Coupe du Monde 2022. On attend avec impatience ce match-là pour les partisans de soccer. Martin Dagenais sera avec nous d'ailleurs pour parler de son équipe respective, les 67 d'Ottawa, lui qui est entraîneur adjoint de cette équipe. On va plutôt parler du dernier match de mardi dernier, victoire de 7-1 pour Ottawa face aux Frontenacs de Kingston, le match qui s'était déroulé au centre Canadian Tire. Martin Dagenais, qui est très content de son équipe, fiche de 16 victoires, une défaite depuis le début de la saison. Ça part bien pour une équipe de hockey junior. Jacques Martin sera là aussi pour parler de Wade Redden, qui sera le premier joueur du cercle d'honneur des Sénateurs d'Ottawa. On va notamment organiser une cérémonie avant la rencontre du 12 septembre prochain face aux Ducks d'Anaheim. Il va aussi commenter l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Et on débute en force avec Renaud Lavoie, lui qui est informateur de TVA Sports. Il discutait avec Nicolas Saint-Pierre de l'actualité, ses commentaires dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je laisse la parole à Renaud Lavoie et Nicolas Saint-Pierre. Renaud Lavoie, on vous rappelle qu'il passe deux fois la semaine dans le vestiaire.
Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Renaud, ça va très bien, merci. Le DG Pierre Dorion a cru bon, encore une fois, de réitérer sa confiance envers son coach. « Coaching is not an issue, not at all. » Mais je me dis encore une fois en prémisse, qu'est-ce que tu veux que le DG dise d'autre?
Ben, mais c'est ça. T'as tout compris. S'il y a une annonce à faire, elle ne se fera pas après la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ceci étant dit, Pierre Dorion ne ment pas non plus. Je pense que c'est tout à fait vrai. C'est très réel que les problèmes des Sénateurs ne sont pas justement liés à tout ça, tu sais. Quand un gars comme Thomas Chabot, maintenant, est absent en raison d'une commotion cérébrale, c'est un gros morceau. Et ça fait beaucoup de petites choses chez les Sénateurs qui font en sorte qu'on connaît des insuccès présentement. Puis, c'est sûr que si c'était un seul élément, ce serait peut-être facile de le régler. Mais présentement, ce n'est pas facile de régler les problèmes de l'équipe. Quand on regarde le match d'hier, je pense qu'on a un autre bon exemple de ce qui fonctionne pas, hein? Mais il reste encore beaucoup de temps, tu sais, si tu me permets de faire un parallèle, je parlais avec Kent Hughes. Puis, tu sais, les Canadiens, entre guillemets, vont bien. Oui, mais si tu regardes toutes les statistiques avancées, tu te poses la question combien de temps que ça va durer encore. Tu comprends?
Oui.
Parce qu'elles ne sont vraiment pas en faveur des Canadiens dans le jeu d'ensemble. La grande différence, puis ça fait quelques jours que j'en parle déjà, mais c'est vraiment devant le filet, où on est capable de, à chaque soir donné, d'aller faire le gros arrêt. De compenser, si tu veux. Offensivement, l'équipe connaît du succès, mais les chances de marquer de qualité, le A1, là, ce qui est autour des gardiens de but, là, le nombre d'occasions que les Canadiens donnent, on se retrouve là dans les cinq premières équipes de la Ligue nationale. Là. À un moment donné, on était presque à côté sur les Ducks d'Anaheim, qui est la pire équipe de la Ligue. Donc, ce sont des petites statistiques qui sont capables de démontrer ce qui s'en vient. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça veut dire quoi, ces statistiques-là? Bien, c'est simple. Les Devils New Jersey, qui sont les adversaires à Montréal ce soir, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale dans les statistiques avancées. Il n'y a pas juste ça. Mais leur succès se prouve quand même de façon tangible. Donc, statistiquement parlant, il y a une corrélation à faire entre la qualité de leur jeu et leurs statistiques. Dans les statistiques avancées. Donc, moi, je dis pas que je crois énormément à ça. Tu le sais, on a eu plusieurs conversations là-dessus.
Ouais.
Sauf que tu es capable d'avoir au moins une bonne idée des tendances des équipes. Puis, je pense que les Sénateurs, présentement, bien, ça va mal parce que dans les statistiques avancées, on doit pas être très, très bon. Mais en même temps, il y a peut-être aussi un côté malchance. Est-ce que DJ Smith est responsable de tous les problèmes de l'équipe? Je pense pas, mais
Non, mais à un moment donné, Renault, en passant, les Devils, c'est 60 % de temps de possession, juste derrière les Hurricanes, 62%. Imagine. C'est vous dire comment ça va bien pour eux autres. Mais ouais. À un moment donné, un coach doit être capable, justement, de trouver des solutions, puis de compenser un peu. Puis je comprends que la ligne bleue est mince, mais ce qu'on remarque encore de DJ Smith, c'est son incapacité. Ben, pour moi, son incapacité à s'adapter. Puis il y a des idées préconçues, puis il reste dessus, puis il est boqué là-dessus. Puis
écoute, on va se parler français. Martin Saint-Louis, envoyez-le derrière le banc des Sénateurs. Est-ce que les Sénateurs sont meilleurs? Oui.
T'as une minute, il y a un commentaire de notre ami Mick, là, il veut dire de quoi, là, il est pas sûr. Non, il dit non, il s'en tient, il veut pas dire de quoi.
Non, mais parce que
je
peux te le garantir. C'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un autre langage. Mais est-ce que ça veut dire que DJ Smith, en tant que tel, est un mauvais entraîneur? Non. Est-ce que pour ce groupe-là, c'est un bon entraîneur? Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Mm. C'est une question qui est, tu sais, qui mérite d'être posée.
Puis Renaud, dis-le, on va le dire franchement, il y a des... Puis jamais, au grand jamais, je commencerai à le vilner puis à dire à un gars qui est dans la Ligue nationale de hockey, t'es pourri, t'es cité ça, il est bien meilleur que 99,9% des gens. Puis c'est tous des gars qui ont été winners, par où est-ce qu'ils sont passés pour se rendre là? On s'entend? Mais reste que... Il y a des entraîneurs qui sont plus des entraîneurs adjoints en Ligue nationale de hockey qu'en coach.
Oh oui, ben oui. Écoute, je sais très bien ce que tu veux dire. Dominique Ducharme, est-ce que c'est quelqu'un d'incompétent? Ben voyons donc, Dominique Ducharme n'est pas incompétent. Regarde la feuille de route de Dominique Ducharme. Là, la deuxième question, c'est est-ce que Dominique Ducharme peut être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey? Cette question-là, elle mérite d'être posée aussi. Mm. Clément Jaudoin, que j'ai connu.
Plus un entraîneur adjoint.
Ben oui, mais Clément, là, sharp, là. Comme Dominique Ducharme, sharp, là. Sharp. Il n'y a pas rien de négatif. Mais il y a une différence en être quelqu'un de créatif, quelqu'un qui aide l'entraîneur-chef à trouver des solutions. Puis celui qui doit diriger un groupe de 23 joueurs. Parce que c'est deux affaires complètement différentes. Complètement différentes. Alors, DJ Smith était entraîneur adjoint chez les Maple Leafs de Toronto. C'est sûr que DJ peut-être fait partie, même s'il est relativement jeune, fait partie peut-être de la vieille garde, la vieille mentalité, peu importe comment qu'on veut l'appeler. Mais en même temps, c'est comment tu t'adaptes. Tu sais, On riait aujourd'hui. Eh bien, Marc-André Perrault me racontait ça. Il parlait à Lindy Ruff. Lindy Ruff, là, c'est toujours bien l'entraîneur des Devils du New Jersey. La meilleure équipe de la Ligue, sinon dans le top 2 ou top 3, là.
Ouais.
Puis Lindy Ruff, là, il était là en 2002.
Oh oui.
Tu sais, ça veut dire que ça fait longtemps là, qu'il est là, là, Lindy Ruff. OK? Tout ça, ben, il était là bien avant 2002.
Ouais,
mais là où je veux en venir, c'est que c'est comment tu es capable de t'adapter, comment tu es capable de reléguer le message. Chaque groupe est complètement différent. Complètement différent. Et je pense que celui des Sénateurs d'Ottawa présentement a besoin d'une autre approche. Est-ce que c'est DJ Smith qui est capable de t'amener cette approche-là? Ou c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire? Alors, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est pas moi qui signe les chèques. Puis je ne suis pas Pierre Dorion, on l'est pas, on se pose juste, on discute ensemble. Est-ce que Pierre Dorion ment en disant qu'il n'y a pas juste l'entraîneur, c'est pas juste l'entraîneur le problème? Non, il a tout à fait raison. C'est pas juste l'entraîneur le problème. Mais en même temps, c'est comment tu fais pour faire avancer le groupe, pour que ce groupe-là soit capable de jouer avec enthousiasme, ce qu'on voit pas toujours chez les Sénateurs.
C'est une belle réunion pour justement planter des graines pour voir si on peut en venir à des transactions. Penses-tu que Pierre Dorion a effectivement eu quelques discussions avec ses amis?
Pierre travaille fort. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de directeurs généraux dans la Ligue nationale présentement qui sont en mode « faut qu'on trouve des solutions ». Mais en même temps, est-ce que, je vais donner un exemple, on va se rapprocher de Montréal. Est-ce que les directeurs généraux appellent pour Jonathan Drouin? Est-ce qu'ils appellent pour Mike Hoffman? Pour Evgeny Dadonov? Non. Ça l'appelle pour qui? Ça l'appelle pour Sean Monahan. Ça appelle pour Joel Armia. Ça appelle pour d'autres mondes, là. Même que, en tout cas, j'espère que s'il appelle pour Joel Armia, on se cassera pas trop à la tête, là. Mais tu comprends ce que je veux dire, ouais, là? Ouais. C'est, le problème est là. Alors, si quelqu'un appelle les Canadiens, puis, hey, on veut Mike Hoffman, ben, ça veut dire que cette personne-là est probablement en mode panique, là, a besoin de trouver une solution rapide à un problème, veut shaker un peu son groupe. Mais en même temps, je pense que les directeurs généraux maintenant, en 2022, là, sont tellement responsables. Ils ne veulent pas faire la transaction qui va faire chambouler, si tu veux, soit leur plan, chambouler l'avenir de l'organisation. Même si, des fois, ils sont obligés de penser à leur... Ils ne peuvent pas penser à eux-mêmes. Il faut qu'ils oublient carrément leur ego. Il faut qu'ils pensent d'abord et avant tout à l'avenir de leur franchise, même s'ils se disent peut-être que dans un an ou deux, je ne serai pas là. C'est la seule façon qu'on peut voir les choses et faire les choses. Puis écoute, je pense, à quelque part, on est un peu à la croisée des chemins. On en a parlé, toi et moi, la semaine passée. On est souvent à la croisée des chemins, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. On gagne un match, on en perd deux, trois. Après ça, de la manière qu'on gagne, on se dit, ah, c'est probablement parti, ça ne l'est pas. Écoute, c'est une bonne question. Mais j'ai la solution, personne ne l'a présentement. Puis j'espère juste qu'ils vont être capables de s'en sortir parce que ce serait vraiment dommage qu'avec ce groupe-là, on ne soit pas capable de gagner. Moi, je te l'ai toujours dit, Cam Talbot, pour moi, c'est lui qui a la clé du succès. Puis Cam Talbot, s'il est capable de faire la job éventuellement, ça va aider. Mais on est rendu là. Tu sais, je comprends qu'il
reste cinq matchs sur Renault, là, puis on pourrait parler dans cinq matchs d'un club pratiquement éliminé déjà. Là. Un peu redondant. Oui, puis
c'est pour ça que à partir de maintenant, je comprends que Cam Talbot revient de blessure, etc. Mais il faut que tu le regardes dans le blanc des yeux, puis il faut que tu lui dises, écoute, vas-y. C'est rendu à ton tour. Je suis tombé sur une. Au temps de la renommée hier, je suis tombé sur une déclaration de Patrick Roy qui a dit qu'à un moment donné, lorsqu'il était à son année recrue, je sais que Cam Talbot n'est pas une recrue, mais dans les premières années de Patrick Roy, Larry Robinson a passé à côté de lui puis il a dit « No more bad goals ». Tu donnes plus de mauvais buts. Tu donnes plus de mauvais buts.
T'as-tu compris, là?
Patrick, c'est ça. Puis Patrick il a compris qu'il ne pouvait pas en donner. Je pense qu'on est rendu là aussi.
Ouais.
Je pense qu'on est rendu là. Tu sais, il faut que les gardiens de but, les Sénateurs d'Ottawa, peu importe le nom dans le dos, fassent la job. Chez les Canadiens de Montréal, peu importe le nom dans le dos, on fait la job. On n'est pas les meilleurs de la Ligue nationale, on fait la job. C'est rendu ça, là. Ça va passer par eux. Bob Bartley a toujours dit, présente-moi un bon gardien, je vais te présenter un bon entraîneur.
C'est bien dit. En passant, notre Alfie National était resplendissant hier avec son discours. Puis les frères Sedin sont tirés la pipe. Pas mal bon, un one-man show probablement, un two-man show probablement pour les deux à un moment donné. C'est une belle cérémonie.
Belle. Je vais te dire de quoi, là, ça ressemble de plus en plus au jour du souvenir. À un moment donné, là.
All right.
Le jour du souvenir, le 11 novembre, je comprends que c'est solennel, là, puis qu'on va honorer nos anciens combattants et nos combattants. Alors, oui, il faut absolument que ça soit solennel. Mais là, on dirait que le temple de la renommée a décidé de prendre la même page, là. On va faire quelque chose de solennel. Hey, c'est du hockey.
Amenez ça à Vegas, vous allez voir qu'on va avoir le party.
Mais non, mais même pas besoin. C'est pas de la force de James Dottie. James est excellent comme animateur. Là, pas du tout. Là, lui, je veux dire, il suit la marche à suivre. Puis c'est un gars qui a un très bon humour, James, en plus. Un gars de la région.
Ouais, gars de
Puis, écoute, tu sais, je veux dire, mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire de cette cérémonie-là un moment solennel. Là. Comme, let's go, on a du fun. Oui, on a eu des bons moments, des bons flashs, surtout avec Roberto Luongo. C'était parfait, mais tu sais, Roberto Luongo, là, ça faisait un bon 2 heures là, que le show t'a commencé. Là.
Ouais.
Hey, écoute-moi bien, les 2 heures d'avant, là, t'en as perdu du monde, là, je te le garantis. Puis, je te dirais pas, je comprends qu'il y a bien des gens qui ont aimé la cérémonie, qui ont aimé Daniel Sedin, Henrik, Daniel Alfredson. Correct tout ça, là, ça c'est bien cute, puis c'est pas contre eux autres que je parle, pas du tout. Mais je pense que là, il est temps d'amener ça à un autre niveau, de s'assurer que les gens qui sont dans la salle, qui payent en passant ceux qui sont pas invités, là, c'était 500$ l'étiquette. 500$ un billet. OK?
J'espère qu'il y avait des sandwichs pas de croûte à la fin, la bande-là.
Pas sûr. Alors, tu sais, là, je ventile, là, mais je pense que il est temps qu'on regarde ça et qu'on se dise, là, faut qu'on prenne une autre avenue parce qu'écoute, là, je veux dire, à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on va commencer, je pense, à faire vraiment honorer les grands de la Ligue nationale. Je pense qu'on est capable de le faire avec un petit peu plus de sauce épicée.
En notant que le message se dirige vers les bonnes oreilles. On cesse là-dessus. Match ce soir, les Canadiens qui reçoivent les Devils. On s'en parle dès jeudi. Bon match, mon ami.
Merci Nicolas, porte-toi bien.
Allons la voix, mesdames, messieurs, l'informateur Ligue nationale de hockey.
Vous êtes de retour dans les meilleurs moments du vestiaire. Autour maintenant de Jacques Martin, lui qui est ancien entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa. Eh bien, on va entendre les propos de Jacques concernant Wade Redden, qui sera le premier joueur du cercle d'honneur des Sens. On va notamment organiser une cérémonie avant la rencontre du 12 décembre prochain face aux Ducks d'Anaheim. Alors, je laisse la parole à Jacques Martin et Nicolas Saint-Pierre, qui justement parlait des Sénateurs d'Ottawa, ainsi que de la performance des Sens.
Poursuivons la discussion hockey avec notre ami Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu?
Ça va bien, Nicolas.
Jacques, je veux pas te prendre au dépourvu, mais je trouvais ça intéressant, la discussion avec Renaud Lavoie, puis je dois te poser une question qui sort un peu du champ gauche, si tu me permets. On se demandait pourquoi dans le hockey de nos jours, on semble que les systèmes, c'est tout du copie-coller. Comparativement, on semble avoir du cookie cutter. Il n'y a pas d'originalité dans l'ensemble des formations. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là ou tu penses le contraire?
Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense, oui, les systèmes sont quand même peut-être semblables. On regarde le hockey a évolué. C'est sûr que le hockey est devenu un style beaucoup plus agressif, un échec avant. La plupart des équipes sont beaucoup plus agressives que dans le passé. Mais il y a des changements. On regarde, il y a certaines équipes qui préconisent, disons, vraiment un contrôle de la rondelle, ne lancent très peu la rondelle dans la zone adverse, veulent pénétrer avec contrôle. Donc, comparativement à d'autres équipes qu'on voit à certains moments, il y en a encore qui vont atteindre la ligne du centre et lancer la rondelle profondément, essayer de recouvrir la rondelle avec leur échec avant. Il y a quand même des changements, mais c'est sûr que si on regarde, lorsqu'on parle de changements, je pense que c'est intéressant, si on regarde le nombre de jeux déjà préparés lors des mises au jeu,
ouais.
Je pense que tu retrouvais pas ça il y a 10-15 ans passés, c'est beaucoup plus de nos jours, la majorité des équipes ont certains set plays qu'on appelle sur les mises au jeu. Donc, puis on a différents systèmes que certaines équipes utilisent. Donc, je pense qu'il y a quand même de la variété. Mais ce qui est peut-être plus qu'on retrouve en majorité du temps, c'est un jeu agressif, beaucoup d'échecs avant, beaucoup de pression sur la rondelle comparativement là, dans le passé.
Super intéressant, les set plays, les jeux préconçus. Une des raisons pourquoi je voulais te parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a annoncé, puis avec raison, que le premier joueur de l'histoire des Sénateurs à avoir l'honneur d'être sur l'anneau d'honneur sera Wade Redden, puis c'est un gars évidemment que tu connais très très bien. Wade Redden, c'est un honneur pleinement mérité. Ce qu'il a représenté pour toi en tant que joueur?
Bien, Wade a été notre corps arrière pendant plusieurs années, a été notre défenseur numéro un, un joueur qui était quand même excellent sur le jeu de puissance, un très bon corps arrière, une excellente vision du jeu. Aussi, disons, s'il n'avait pas peut-être une rapidité extrême, il était quand même excellent à reprendre la rondelle et à repérer le joueur libre et une excellente première passe. Je pense que Wade, dans ses années avec les Sénateurs, puis surtout à mon époque, a joué quand même de l'excellent hockey. C'était notre défenseur numéro un pour plusieurs années.
Est-ce qu'on peut reconnaître aussi ses qualités de leader? Est-ce qu'on peut parler d'un leader dans cette chambre-là?
Oui, définitivement. Il faisait partie du groupe de leaders. Donc, je pense que Wade était un peu plus jeune qu'un Daniel Alfredson, mais je pense qu'il faisait partie de mon groupe de leader pour nos équipes à cette époque-là.
C'était pas le plus gros, mais est-ce qu'on peut parler d'un gars qui compensait par son intelligence pour le jeu? Est-ce que tu comprends dans le sens que c'était un gars qui était l'IQ, hockey IQ, c'était élevé pour lui?
Définitivement. C'est un joueur, donc, comme tu dis, qui était pas le plus gros, pas le plus physique, mais savait quand même l'importance de bien se positionner, d'être du bon côté de l'attaquant pour défendre. Puis c'est un joueur donc qui servait énormément, comme tu l'as mentionné, de son intelligence, de sa tête, soit pour sortir la rondelle de la zone ou bien pour défendre en ayant un bon bâton et une bonne position de son corps.
Bonne personne qui s'est impliquée également dans la communauté. Alors, chapeau, puis on vous le rappelle, le 12 décembre prochain contre les Ducks d'Anaheim, un honneur pour lui, se retrouvera dans l'anneau d'honneur, il va retrouver l'ancien monsieur Brian Murray. Je veux t'entendre sur la qualité de jeu, en fait, de certains joueurs, en particulier Tim Stutzla, parce qu'on s'entend, même si on l'a gagné hier, les Sénateurs, c'était pas nécessairement du jeu très convaincant. Puis un bonhomme qui, des fois, nous donne un peu des maux de tête à regarder, c'est Tim Stutzla. Puis il faut parler un peu d'immaturité. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ce que tu as vu de Tim Stutzla et peut-être d'un gars que tu as bien connu également, Jason Spezza?
Bien, c'est sûr que les joueurs, disons, lorsqu'ils sont de jeune âge, lors de leurs premières années dans la Ligue nationale, chaque joueur a un différent niveau de maturité. Je ne connais pas tout ça, mais définitivement, donc comme Jason Spezza était un excellent joueur de hockey, mais avait donc c'est un jeune qui avait manqué peut-être de maturité à certains temps, mais qui s'est amélioré beaucoup avec les ans, avec les années, a appris à jouer, disons, de la bonne façon. Puis je pense dans le cas de Soucy, c'est un peu le même phénomène. Donc, dans les jeunes joueurs, des fois, reconnaître l'importance de notre jeu sans la rondelle, c'est pas toujours évident pour des joueurs offensifs.
On a parlé précédemment du temps de glace de Thomas Chabot, puis pour moi, une des raisons pourquoi il se retrouve avec une commotion cérébrale, c'est parce que on le joue trop souvent puis trop longtemps. Ta théorie sur un joueur de pointe comme un gars Thomas Chabot, c'était quoi pour le temps de glace? Comment tu utilisais un joueur comme ça, selon toi? Et est-ce que tu trouves qu'on le joue trop?
Bien, non, c'est dur à dire. Tu sais, je pense qu'il faut faire confiance aux entraîneurs. Puis, tu sais, ça dépend aussi de la capacité physique du joueur. C'est sûr, dans le cas de Thomas Chabot, c'est un gars, tu sais, qui joue avec son intelligence, avec sa rapidité, son déplacement de rondelle, est capable de repérer les ouvertures, très bon fabricant de jeu. Donc, tu sais, c'est pas comme un joueur qui est un gros défenseur, qui est physique, et ainsi de suite. C'est difficile à dire. C'est ça. C'est vraiment la responsabilité de l'équipe, des entraîneurs, tu sais, de juger le temps de glace qu'on doit lui faire faire. Mais souvent, des fois aussi, pour regarder lorsqu'on a des joueurs qui sont absents à cause de blessures ou à cause de la profondeur de l'équipe à la défensive, peut-être que ça force les entraîneurs à surutiliser un joueur comme Chabot.
Un joueur comme Chabot. Puis est-ce que tu adhères à cette théorie-là, par exemple, c'est que passer 24-25 minutes, le gars est exposé. C'est-à-dire, t'es fatigué, t'as moins d'énergie, tu penses moins, tu t'exposes, puis tu t'exposes à des blessures. Est-ce que ça fait du sens, ça?
Ça fait du sens, mais il reste quand même, tu sais, c'est pas une règle qui s'applique à tout le monde. Tu regardes Cale Makar avec les Avalanches, c'est tellement un bon patineur. C'est pour ça, donc, des fois, il faut quand même avoir une certaine liberté, mais c'est sûr que lorsque tu joues plus que 24 minutes par partie, 25 minutes, c'est beaucoup de temps de glace. Et aussi, si on regarde l'horaire de la Ligue nationale maintenant, beaucoup de parties à chaque semaine, Donc, ça vient des fois que ça vient peut-être un peu épuisant pour certains joueurs.
J'ai des sujets pour à peu près une heure et demie, puis on manque de temps. Alors, je vais quand même te laisser vaquer à tes occupations. Mais avant de te laisser, on s'est croisés cette semaine pour un match 67 Frontenac. Tu travailles pour les Frontenac, mais ta perception, c'est beau à voir les 67, une belle équipe.
Oui, très belle équipe. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un de leurs assistants entraîneurs avant le match. Et j'avais vu le match la semaine dernière aussi des 67 contre Kingston à Kingston. Donc, c'est une belle équipe, une équipe qui joue rapide, qui a beaucoup de rapidité, qui a une bonne profondeur. Donc, qui connaît beaucoup de succès, puis c'est intéressant pour cette équipe-là et aussi pour le groupe d'entraîneurs qui font de l'excellent travail. Et c'est bon d'avoir une équipe comme les 67 connaître du succès dans la ville d'Ottawa.
On va garder les autres sujets pour la semaine prochaine, Jacques. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On se dit à jeudi prochain.
Toujours un plaisir. Merci.
Jacques Martin, mesdames, messieurs, une fois la semaine avec nous.
Les 67 d'Ottawa. C'est pas piqué des verres d'être la troisième meilleure équipe junior au Canada. Eh bien, la troupe de Martin Dagenais, lui qui est entraîneur adjoint pour les 67 d'Ottawa, ça va très bien de leur côté. 16 victoires, une défaite en 17 matchs. Ils vont plutôt parler de leur dernière rencontre mardi dernier face aux Frontenacs de Kingston. Belle victoire de 7-1 au Centre Canadian Tire. Mais on vous rappelle qu'on a un match ce soir pour les 67 d'Ottawa, eux qui jouent à 19h face aux Bulldogs de Hamilton. Alors, sur ça, je laisse la parole à Nicolas Saint-Pierre qui est accompagné de l'entraîneur adjoint des 67 d'Ottawa, Martin Dagenais.
Mais une belle matinée qu'on a passée au Centre Canadien Tire parce qu'on a vu les 67 encore une fois l'emporter. Une fiche maintenant de 16-1. Mais de mes yeux vus, c'était la première fois que j'y voyais comme ça et c'était beau à voir. C'est quasiment une pièce d'art voir ça. Et j'exagère à peine. Mais j'ai compris, par exemple, une chose, c'est qu'on veut garder le monde sur le plancher des vaches, puis j'ai senti également qu'on est un peu surpris, même de la part des coachs, du résultat en ce moment. Est-ce que je me trompe, Martin, du fait que cette saison-ci est plus qu'extraordinaire de votre perception, là?
Bien, jusqu'à présent, c'est certain qu'on ne s'attendait pas à ça. Là, on en est parlé quand même.
On sent se répéter, mais...
Ben, c'est ça. C'est 16 victoires, une défaite... quand tu as une équipe là, qui est supposée finir au milieu là, de la conférence, c'est certain que ça se prend bien. Mais je pense quand même que les 5-6 prochains matchs, ceux qui sont presque tous sur la route pour des équipes de premier plan, vont peut-être donner une meilleure indication là, où on se situe. Puis je veux pas dire qu'on a joué contre des équipes un peu plus faibles dernièrement. C'est juste... Je pense juste qu'on va prendre les équipes de vraiment haut niveau dans les deux prochaines semaines. Là.
Mais il y avait quand même un air de vengeance pour un match comme celui-là, parce que les Frontenacs, c'est l'équipe qui vous ont fait subir la... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Hein, la dernière semaine, vous aviez été dominé par cette équipe-là, non?
Non. Peterborough nous avait battu.
Oui, c'est ça. Okay, bon.
Ouais,
parce que tu m'avais dit que c'était pas votre meilleur match contre eux autres.
Exactement. C'est un match où on s'est senti... je te dirais dominer, là, je sais même pas si on a eu 20 lancés. Ils ont été beaucoup meilleurs que nous. Donc, c'est important de rebondir. Puis je pense que l'occasion était idéale avec le match en matinée, avec 13 000 étudiants dans les estrades. Je pense que ça donnait un bon show.
T'as-tu aimé l'ambiance? Aimez-vous ça, cette expérience-là?
Oui, je pense pas que c'est quelque chose qu'on veut faire à chaque match. Parce que
À raison des décibels.
C'est ça, c'est des sons très aigus qui sortent des estrades. Mais en même temps, c'est pour les jeunes, c'est le fun. Ben, quand je dis les jeunes, je parle de nos joueurs, de vivre cette ambiance-là, de jouer dans un amphithéâtre d'équipe de la Ligue nationale. Puis, moi, j'aime ça un match à 10h30 parce qu'on est l'équipe dans la Ligue, nous, qui pratique le plus tôt, là, le matin. Donc, c'est pas comme si ça change beaucoup notre routine. C'est moi qui étais en charge de préparer le déjeuner, de réserver, faire des réservations pour le déjeuner.
Et là, j'allais dire, c'est-tu ça qui coûte?
Non, je suis pas rentré à ce point-là. Là. Mais c'est ça, puis j'ai fait venir un
traiteur.
Un traiteur, c'est ça, un petit restaurant là, près de la place TD pour 7h. Puis le déjeuner était à 7h15. Puis je te dirais que j'avais des joueurs arrivés là, à 6h30, 6h35, prêts à déjeuner. Puis, c'est un peu l'ambiance là, qui règne, puis le côté de leadership aussi. Tu sais, un gars comme Jack Mathieu est tout le temps le premier à l'aréna à 6h15, 6h30 chaque matin. Dave est pas mal souvent le premier arrivé, lui, vers 5:45-6 heures. Moi, j'amène des enfants à la garderie, j'arrive à 7 heures, donc c'est vraiment, là, tu sais, c'est... Mais t'habitues, puis dans un match à 2h30 de même, mais moi, j'ai trouvé qu'on avait un avantage, parce que Kingston, c'est une équipe qui pratique toujours ouais. En après-midi.
Dave, après le match, d'ailleurs, il disait ça, il dit « Je suis surpris parce que ces gars-là sont tellement matinales. » Ça devient un automatisme pour eux autres. Puis c'est le fun quand même de voir cette énergie-là déjà de bonheur. Puis on voit des gars qui s'en vont là avec le work boot, comme on dit, là, leur case de travailleurs, puis let's go. Là.
Oui, puis comme même comme entraîneur, moi, c'était dans le junioral, nos pratiques, c'est toujours l'après-midi. Là. C'est après que l'école est terminée, donc vers 3h30, 4h. Donc la première semaine, là, c'est assez difficile. Là, tu peux plus te coucher à 11h, 11h30 le soir parce que tu es debout à 5h30, 6h le matin, puis quand t'as des enfants, ben, c'est quoi, je pense?
Ouais, ouais.
C'est pas... C'est ça. Des fois, tu te lèves dans la nuit quand que tu penses pas que tu devrais être obligé de te lever.
Mais t'es arrivé une couple de fois, ça. Et là, moi, je joue aux experts. Puis, écoute, pars pas en peur, là, puis commence pas à rire de moi, là, mais écoute, là, je parlais avec Tim Baines après la rencontre, Tim Baines ouais. Du Sun, puis on se disait, ça a l'air tellement facile, puis on s'entend, là, il y a du travail là-dedans, mais... Écoute, là, de ce que j'ai vu, là, c'est juste mes petits yeux, bien humblement, je dis ça. Là. Mais pendant le match se déroulait, là, j'ai vu du 1-2-2, du 1-3-1, du 1-1-3, du 2-1-2, puis je me suis dit, est-ce que ce système-là, c'est-tu un système qui se métamorphose au fur et à mesure que le match progresse? Est-ce que vous êtes un système organique? Est-ce que c'est trop gros de dire ça? Est-ce que je vois ça de la mauvaise façon?
Ben, Dave, c'est certain qu'il veut que les gars soient en mesure de penser sur la glace. Moi, je te dirais qu'à 90% du temps, on va jouer un 2-1-2. Dave appelle ça un split. Moi, j'appelle ça un 2-1-2. C'est quand on pense qu'on a l'occasion de mettre de la pression sur le porteur du disque. Quand on est en position un peu d'attente, soit qu'on change, l'autre équipe est derrière leur filet puis essaie de préparer à attaquer. On va souvent aller dans un 1-1-3, des fois un 1-3-1. Mais vraiment, c'est un 1-1-3, mais des fois, ça ressemble à un 1-3-1 parce qu'on est un peu plus agressif. Je pense qu'on fait ça parce qu'on est très confiant avec notre échec avant. On est confiant de faire les bonnes choses en zone neutre. Puis, ouais, je te dirais que ben, tu sais aussi, là, Dave Cameron, c'est un gars qui est très, très structuré. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on paraît très bien à 5 contre 5.
Mais ben, il semble pas avoir de gaffe de faille dans vos affaires. Puis, bien honnêtement, j'ai demandé à Dave, j'ai dit, je comprends là, qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire de mal de votre lune, mais je suis sûr que tu serais capable de trouver des petits anicroches. J'ai demandé, qu'est-ce que tu aurais sur ta liste d'épicerie pour augmenter ça? Il dit, juste la constance. J'ai trouvé ça sage de sa part, parce que c'est pas nécessairement un élément de l'extérieur que ça vous prend. La constance, c'est gros également, ça.
Oui, c'est certain. Puis surtout avec le fait qu'on... T'sais, on est l'équipe la plus jeune dans la ligue présentement. Fait que garde côté statistique, c'est nous que on a encore 10 joueurs qui sont au secondaire.
C'est incroyable.
Puis tu regardes nos meilleurs marqueurs. Je sais qu'on a perdu Jack Peck puis Tyler Boucher.
Ça, c'est une autre affaire dont je veux parler.
Qui sont probablement deux de nos meilleurs attaquants, si c'est pas nos deux meilleurs. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir un Luca Pinelli, un Brad Gardiner. Puis c'était le fun pour Brad aujourd'hui parce qu'on sait que son père joue pour les Sénateurs, Bruce.
Oui.
Donc lui, c'était spécial. Puis Jacques Martin était là, puis on a jasé de ça un peu. On a Cooper Foster là, qui sort un peu de nulle part, là, qui est déjà rendu à 10 buts aussi, je ne me trompe pas. Deuxième meilleur marqueur chez les recrues dans le circuit. Donc, c'est vraiment nos jeunes là, qui nous poussent vers des sommets qu'on pensait pas atteindre là, si tôt dans l'année.
Ça va être lettre quand Boucher et Beck vont venir. Boucher, il revient le prochain match pour vous autres. La suspension est terminée.
Exactement. La suspension de ce match est terminée. Jack Beck, je te dirais qu'il est un autre de semaine ou deux. Lui, c'est une commotion cérébrale. Donc on va être très patient.
Incroyable. Brady Stonehouse, en 20 semaines, a marqué un but à la Michigan. Ton impression sur ce genre de but-là, est-ce que c'est une bonne chose ou comme Tortorella, t'aimes moins?
Bah, moi, ça me dérange pas. Ben, je pense que ça fait un bon show pour surtout hockey junior là, pour les partisans. Puis je me dis, c'est égal de le faire, fallait. C'est certain que nous autres, ça nous est arrivé l'an dernier. Ça est arrivé contre nous, Kingston, je pense que c'est un dernier Chromiac qui l'avait fait contre nous. Donc c'est moins le fun, surtout que ça a été le but gagnant. Brady, lui, le pointage, c'était 4-1, donc il s'est permis de le faire, qui est une bonne chose parce qu'à 1-1 en troisième période, s'il l'aurait essayé, puis ça n'aurait pas fonctionné. Je te dis que Dave l'avait cloué au banc. Ça n'aurait pas été long. Dans le timing, t'as bon. Puis les jeunes d'aujourd'hui, le côté skill, là, c'est fou comment que c'est en avant il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des fois, C'est pour ça qu'un gars, par exemple, comme Brady Stonehouse, des gars de caractère qui jouent un peu à la manière des frères Ketchup, il y en a de moins en moins. Ces gars-là, là, c'est des valeurs sûres, surtout en série. Puis on s'les arrache. Donc, qu'est-ce que j'aime, moi, de Stonehouse, c'est qu'il amène le côté scrum, mais il y a aussi le côté fatiguant, le côté méchant, qu'il y a du chien qui c'est du compete, comme on dit en anglais. Donc, moi, je pense que c'est une erreur là, que ce gars-là n'a pas été repêché l'an dernier au repêchage à Montréal. Puis je pense que ça va. En tout cas, je pense qu'en 2023, Nashville, son nom va sortir, même si ce n'est plus tard.
Sa valeur devrait être rehaussée, c'est sûr et certain. Oui. Dave, dans l'après-match, a dit une des explications pour comprendre un peu les succès que vous avez en ce moment, c'est que l'an dernier, ça a débuté tout ça en deuxième moitié, puis de jouer à récurrence contre des gros clubs, contre les Frontenacs d'ailleurs, puis contre les Bulldogs, ça vous a préparé pour ce que vous avez en ce moment. T'es d'accord avec cette affirmation-là?
100%. C'est des équipes qui, certains soirs, nous battaient 5-1, 6-1. Le lendemain, on arrivait, puis on les battait 2-1, 3-2. T'sais, Hamilton puis Kingston, c'était deux gros clubs l'an dernier. Même en série contre North Bay, autant qu'on a perdu en 4 matchs, je pense que chaque match, ça finit par la marge d'un but à part de 1, puis c'est parce qu'ils ont marqué dans un filet d'erreur. Puis sur papier, c'est une équipe qui était beaucoup plus forte que nous. Ils nous ont battu deux fois en sur-temps. On a vraiment là, travaillé fort pour leur donner une aide, mais en fin de compte, on n'était juste pas assez fort à ce moment-là. Mais non, c'est certain que c'est... Tu sais, puis je me répète, je m'attendais pas à ça, puis je me fais texter, je me fais appeler par des gens, des amis, des gens de hockey, puis ouais, mais tu fais juste dire que vous êtes pas si fort que ça. Puis je pense encore pas qu'on est si fort que ça. On n'est pas à masser. Hein,
ah ouais, mais vous essayez de baisser un peu le niveau, c'est ça que vous essayez de faire,
ben,
vous autres.
Parce que toi, tu as vu un match, puis tu l'as vu contre Kingston. On s'entend que Kingston, puis il manquait 2-3 morceaux aujourd'hui. C'est pas une grosse équipe. C'est pour ça que je me dis, tu sais, là, on a aérien en fin de semaine. Dimanche, on est à Mississauga, qui sont très forts. La semaine d'après, on a une game à North Bay, puis une à Peterborough. Donc, c'est ça. Le prochain deux semaines vont vraiment nous indiquer là, si on est vraiment aussi bon que le monde dise qu'on est. Puis en même temps, tu sais, comme coach, tu veux pas non plus que tes joueurs commencent à penser qu'ils sont au-dessus de tout le monde non plus.
Ça,
donc, c'est notre job aussi de les ramener sur terre.
Faites une bonne job, en tout cas, pour
les jeunes joueurs.
Ouais, ça, c'est un fait. C'est difficile de ne pas s'emporter. Donc, un voyage, on va le dire, baromètre, les cinq prochains sur la route, comme tu l'as dit, de grosse commande, Hamilton, Erie, Mississauga, North Bay, Peterborough. Alors, on pourra s'en parler dès la semaine prochaine. Martin, c'est toujours apprécié de te parler. Alors, on va te souhaiter le mot de Cambronne, bonne préparation, puis let's go, 67! Moi, on dit que c'est beau voir ça.
Merci beaucoup, qu'on se parle mardi prochain.
Salut!
Le dernier bloc des meilleurs moments du vestiaire est réservé à notre expert en soccer, Guy Girard, qui va nous parler de la Coupe du Monde 2022, surtout de l'équipe Canada qui vont affronter le pays de la Belgique mercredi prochain à 14h. Alors, je laisse la parole à Nicolas Saint-Pierre qui est accompagné de Guy Girard.
En fin de semaine, c'est le coup d'envoi de la classique, la Coupe du Monde. Dernière édition avec 32 clubs. Par la suite, on va augmenter ça avec l'édition qui sera partagée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça, c'est en 2026. Pour l'instant, ben, au Qatar, on va avoir l'équipe hôtesse qui va affronter l'Équateur en levée de rideau ce dimanche. On en parle certainement un de nos sujets avec notre ami Guy Girard qui nous attend. Guy, comment ça va?
Eh bien, Nicolas, toi?
Ça va super bien, merci. Excité à part de ça, j'ai l'impression qu'on va vivre quelque chose d'excitant, mais d'historique également pour le Canada au Qatar, ouais. En espérant qu'on ait des bons résultats. Mais avant de parler du Canada, il faudrait parler du CF Montréal. On dit qu'il n'y aura pas d'option sur deux de leurs gardiens. Est-ce que c'est une problématique pour toi ou...
C'est
une problématique du fait que t'as pas de gardien, là, mais...
C'est définitivement pas un vote de confiance, ça, c'est certain, là, pour les deux gars, là, Breza et puis Pantémis, on le sait. Puis tu te rappelleras, Nicolas, au tout début de la saison MLS, j'avais mentionné que c'était peut-être pas l'idéal, en fait, d'aligner deux gardiens de but presque du même âge, alors que les deux ne sont pas, entre guillemets, de vrais premiers gardiens. Puis que l'idéal, ça aurait été d'aller chercher un gardien plus aguerri, là, de 28-30 ans, là, parce qu'on sait que les gardiens de but là, sont à maturité aux alentours de cet âge-là. Puis on n'a qu'à penser à Maxime Crépeau, c'est le meilleur exemple. À 27, 28, 29 ans, là, il est à son apogée, puis c'est un petit peu comme ça. Donc, on a aligné deux jeunes gardiens de but là, avec le CF Montréal, puis on espérait là, que bon, ces deux-là allaient se battre pour le poste de premier gardien, là, puis qu'on allait vraiment avoir une différence entre les deux, puis ça n'a pas été le cas. là. Puis là, ben, on n'a définitivement pas exercé justement l'option de ces deux gars-là. Est-ce que, parce que du côté d'Olivier Renard, on aurait peut-être là une si tu veux, une wild card cachée là, avec quelqu'un qui va s'en venir, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais c'est définitivement pas un gros vote de confiance. Est-ce qu'on a voulu aussi avec ça, parce qu'on sait que Brésil est en prêt hein, de colonne de l'Italie, mais est-ce qu'on a voulu, parce que Pantémis gagne 160 000 par année, et bon, il n'a pas fait la différence dans les matchs, surtout contre New York City dans les éliminatoires, est-ce qu'on veut renégocier un contrat, peut-être à court et à moyen ou à long terme avec lui, mais plus bas, au niveau de sa de son salaire, peut-être, mais il vaut définitivement pas plus que 160 000 présentement, celui-là. Donc, c'est pas le fun pour les deux garçons, les deux gardiens de but, ça c'est sûr. Mais là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite des choses, vraiment hâte. Puis, selon ce qui est discuté, Nicolas, c'est que lorsque Crépeau avait décidé, lui, de tirer sa révérence et demander justement à Vancouver de le libérer, Nancy avait supplié l'Impact de Montréal de l'amener à Montréal, mais ça a l'air que les discussions ont été très, très courtes entre Crépeau et l'organisation montréalaise.
Je pense pas que Maxime Crépeau porte dans son cœur l'organisation montréalaise pour les raisons qu'on sait.
Oui, Nicolas, c'est sûr et certain. Puis, tu sais-tu quoi? Rappelle-toi lorsque Maxime Crépeau était ici à Ottawa avec le Fury, lorsque celui-ci jouait en USL. Jamais Montréal ne sont venus voir, justement, leur protégé, venir voir garder les buts.
Ben, c'est ce que
en plus, tu te rappelleras qu'il avait été nommé meilleur gardien de but de la USL à ce moment-là. Donc, je trouve ça un peu cavalier de la part de Montréal, justement, d'avoir fait un peu fi, justement, de son gardien de but, qui est aujourd'hui un gardien de but étoile en MLS.
On n'en sera pas une première organisation québécoise qui lève le nez sur ses talents locaux. En tout cas, on s'en reparlera. CPL, il y a quand même du positif du fait qu'on va annoncer, en fait, les arrivées des nouvelles formations Saskatoon. Et apparemment, Kelowna également, dans l'Okanagan, une troisième formation, donc dans la Colombie-Britannique. Mais si on regarde du côté positif, il y a toujours le Yang du Ying. Et là, on parle d'Edmonton comme étant une équipe qui est moribonde. On parle même d'une équipe qui serait sur le respirateur artificiel. On n'a pas réussi à trouver de nouveaux propriétaires parce que ce club-là était sous tutelle de la Ligue en ce moment, dernière saison. Là.
Ben, écoute, ça fait longtemps, Nicolas. Là, lorsque Edmonton était en NASL, tu te rappelleras, là, avec, bon, sous l'égide des Strikers à cette époque-là, c'était pareil, là. C'était une équipe qui vivotait beaucoup. C'est une équipe qui était tout le temps dans les bas-fonds de la Ligue. Pas beaucoup de spectateurs non plus. Puis les deux propriétaires, qui sont deux frères en passant, ont été reconduits en CPL. Puis la CPL, on leur a fait confiance. Puis déjà que ces deux gars-là avaient des problèmes financiers, ben là, aujourd'hui, ils sont sous tutelle. Puis là, on chercherait de nouveaux investisseurs pour garder justement la franchise ouverte. Mais si cette franchise-là, là, en fait, ferme ses portes, ça va être un premier œil au beurre noir du côté de la CPL, ce qu'on ne souhaite pas, parce que quand même, Edmonton est un bon marché. Là. Il y a du monde là-bas, il y a beaucoup de sous là-bas aussi en même temps. J'ai hâte de voir, mais ce serait vraiment dommage là, du côté d'Edmonton si cette franchise-là ferme ses portes.
Convaincu que si la franchise ferme, on va faire des efforts pour y retourner. On va repartir sur de meilleures bases. En tout cas, on verra bien. Pour l'instant, surveiller donc Edmonton. Alphonso Davies.
Oui.
On parle de la Coupe du Monde maintenant. Oh, avant, il y a un message qu'on vient de me faire parvenir d'un auditeur, puis il faut que je te pose la question. On me demande qui, selon toi, va prendre la relève de Wilfred Nancy pour le CF Montréal?
Oh! Écoute, question à quelques dollars. Premièrement, Wilfred Nancy, entre guillemets, n'est pas parti. Hein? Il n'y a aucune annonce à cet effet-là, sauf que bon, les rumeurs courent bon train que celui-ci regarderait déjà ailleurs. Il y a des noms qui sortent. Le nom de Marc Dos Santos est sorti et celui-ci aurait catégoriquement refusé justement l'offre de Montréal ou l'approche, si tu veux. S'il y a eu une approche, celui-ci se plaît vraiment là-bas énormément avec Los Angeles. On sait que c'est une belle organisation, Los Angeles, qui font partie de la Ligue des Champions l'année prochaine. Lui, il veut définitivement vivre ça. Mauro Biello, le nom aurait sorti là aussi. Est-ce que celui-ci se laissera tenter par une deuxième aventure avec le CF Montréal? Dans des conditions, on va se le dire, pas mal meilleur que lorsqu'il était arrivé à un moment donné. C'est les deux noms qui vont sortir à venir à date, Nicolas. J'en vois pas d'autres. La liste, en passant, est très courte. On aurait aussi l'entraîneur du Forge qui aurait été approché en passant. Puis si ça n'avait pas été Wilfred Nancy, ça aurait probablement été lui, mais selon les contacts que j'ai, Nicolas, on aurait refusé, ça aurait été Joey Saputo qui aurait refusé justement l'avenue d'entraîneur du Forge pour une raison, la langue. Il ne parlait seulement anglais. On verra, mais les prochains jours seront très déterminants. Il y aura certainement d'autres noms qui sortiront, mais ici au Québec, je le répète, la liste est très courte.
On va parler de la Coupe du Monde. Alphonso Davies n'est toujours pas dans les parages de l'équipe nationale en préparation, non, évidemment, de leur premier match dans une semaine contre la Belgique. Est-ce que pour toi, c'est inquiétant? Recevrait toujours des traitements avec l'équipe de Bayern en ce moment?
Moi, je pense que du côté d'Alphonso Davies, il serait sur son départ pour aller rejoindre l'équipe. Il ne jouera pas contre le Japon demain, mais c'est probablement que les discussions qui ont eu lieu entre l'organisation du Bayern et l'équipe canadienne, c'est qu'on aurait probablement préféré garder Alphonso Davies à Munich pour se faire soigner là-bas, parce que, bon, les soigneurs connaissent très, très bien, évidemment, le prolifique attaquant canadien, là. Donc, c'est probablement la décision qu'on a prise au lieu de l'amener directement au Qatar. Puis, bon, je connais pas nécessairement les installations là-bas et les conditions, mais force est de constater que les conditions avec le Bayern de Munich sont probablement meilleures là-bas. C'est probablement qu'on a décidé, probablement, de garder Alphonso Davies le plus longtemps possible là-bas à Munich pour se faire soigner.
J'entendais les observateurs, puis ils disaient que le tournoi de la Coupe du Monde est toujours le plus particulier. Le fait de ne pas l'avoir là, est-ce que ça enlève une certaine adaptation qu'il n'aura pas pour un tournoi comme celui-là? Est-ce que quelques jours, c'est assez pour lui pour s'en venir puis pour rivaliser avec être un élément important, donc la Belgique? Ou
Moi, je pense, Nicolas, que je vais te le dire directement, là, quand t'es bon partout. C'est bon n'importe quand.
Ouais. Bon, ben, on va le souhaiter. On va le souhaiter que le hamstring soit correct aussi.
C'est une blessure qui est longue à guérir en passant, hein, tout le temps. Là.
C'est ça qui est dangereux. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, on touche du bois, puis on va le voir en uniforme, on l'espère, mercredi prochain contre la Belgique. Le Qatar contre l'Équateur pour lever le rideau de cette Coupe du Monde-là. Dans l'histoire, aucune ville ou aucun pays hôtesse ou autre n'a subi la défaite en ouverture de tournoi. Le Qatar peut-il faire la même chose?
Bon, écoute, probablement que oui, transporté évidemment par la foule, par l'émotion. En passant, ça ne sera pas un match existant, on va se le dire, là, l'Équateur et le Qatar, pas deux grandes puissances, là.
Mais transporté par le... Pardon? 50e et 49e, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Donc, on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier. Pour, gâche pas ta maison là-dessus là, pour savoir qui de ces deux-là vont gagner la Coupe du Monde. Ça n'arrivera pas. Mais sauf que quand même, je me rappelle en 2018, la Russie est contre la Nouvelle-Zélande. Ça avait été 2-0. Le Brésil-Croate en 2014, 3-1 pour le Brésil, là-bas au Brésil. Et écoute, je pense de mémoire, en 2010, la fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud, là où la France n'avait pas réussi à passer la phase de groupe, et où, je m'en rappellerai tout le temps, Adidas avait mis, je crois, tout près d'un milliard en publicité sur l'équipe de France. Et pouit, mon ami, ils sont revenus en France assez de bonheur, il n'y avait pas grand monde à l'aéroport pour les accueillir. Et là, et l'Afrique avait fait 1-1 contre le Mexique. Et en 86, on va remonter, mon chum, la seule année où le Canada avait participé à la Coupe du Monde, le Mexique, c'était en fait, avait vaincu la Belgique 2-1 là-bas au Mexique. Voilà. Donc, ton observation était excellente là-dessus.
On va voir si l'histoire va être répétée, mais chose certaine, on passe aux choses sérieuses maintenant à partir de dimanche avec l'ouverture de la Coupe du Monde. On va être occupé, mais on va se parler souvent durant cette Coupe du Monde-là. Alors, Guy Girard, je te dis, prépare-toi.
Mon homme, c'est correct. Je suis prêt.
Ah ben excellent, excité à part de ça. Je te dis bonne fin de soirée mon ami, puis on se reparle dès lundi prochain pour faire état de la situation avec le résultat de dimanche.
Avec plaisir.
Merci mon ami Guy Girard, notre expert soccer, mesdames, messieurs. On va lui parler souvent évidemment pour vous donner une couverture complète de la Coupe du Monde.
Et voilà ce qui conclut notre émission 94.5 Unique FM. Les meilleurs moments du vestiaire, c'est diffusé à chaque vendredi dès 16h. Et pour l'émission originale, c'est du lundi au jeudi de 7h30 à 19h. Sur ça, n'oubliez pas qu'on a un match des Sénateurs demain en après-midi à 13h. Les Sénateurs qui affrontent les Devils du New Jersey au hockey. Véronique Lassier des Sénateurs. Sur ce, on se reparle demain pour ceux qui sont intéressés à écouter le match des Sens. Ciao, bye!